tous, je suis Guillaume du blog Santé des enfants et environnement, qui est là pour vous aider à entourer les enfants d'un environnement sain, non pollué et empreint de nature. Bienvenue dans ce nouveau podcast, où je vais vous lire l'article « Comment protéger les enfants et les femmes enceintes des polluants issus des cosmétiques ». Donc comme ça a été déjà l'occasion pour des podcasts précédents, il s'agit d'un article au format bilan, donc un article où je prends un sujet et je fais un bilan des différentes informations, des différents enjeux et des différentes recommandations existantes. Donc cet article synthétise le résultat de mes recherches concernant les produits cosmétiques, produits d'hygiène, produits de soins, produits de maquillage, déodorants, parfums, crèmes solaires, etc. Et plus particulièrement, il porte sur les expositions des enfants et des femmes enceintes aux substances chimiques issues des cosmétiques. Donc comme d'habitude, pour ce type de format, les informations et les recommandations que je vais vous lire proviennent d'un ensemble de sources variées, dont je donne le détail dans le paragraphe référence à la fin de l'article. Produire un travail d'expertise critique pour chaque information et chaque recommandation représenterait un travail lourd, notamment du fait des recherches bibliographiques associées. Je ne suis pas actuellement en mesure de le réaliser, principalement par manque de temps. Donc dans ce cadre, les objectifs de l'article sont informés sur les enjeux identifiés par les différents acteurs de la thématique, fournir un panorama des recommandations existantes, et puis permettre un premier niveau d'analyse pour chaque recommandation existante sur la base de deux caractéristiques, le nombre de sources proposant la recommandation, et puis le type de source proposant la recommandation. Donc pour chacune de ces sources, ça peut être soit magazines, journaux ou émissions de télévision, soit associations ONG, livres, organismes publics, articles scientifiques examinés par des pairs, etc. Donc pour que vous puissiez faire ce premier niveau d'analyse, à l'oral, moi je vais simplement énumérer les recommandations existantes, et si vous souhaitez avoir ce premier niveau d'analyse critique, eh bien je vous renvoie au blog, donc en tapant santé, enfants, environnement sur Google, ce sera le premier lien, et puis dans l'invite du petit moteur de recherche en haut à droite du blog, vous tapez juste cosmétique et ce sera le premier lien. Et donc pour chaque recommandation, dans cet article, eh bien vous pourrez voir le nombre de recommandations et puis le type de source grâce à un code couleur simple que je mets à la fin de l'article. Alors quels sont les enjeux identifiés concernant les produits cosmétiques pour la santé des enfants et des femmes enceintes ? Les cosmétiques contiennent des substances chimiques dont certaines peuvent présenter des dangers pour la santé. Certaines substances peuvent perturber le système hormonal ou être présentes sous forme de nanoparticules, c'est-à-dire des particules de très petite taille. Un nanomètre, c'est un milliardième de mètre. Ces deux caractéristiques génèrent des risques supplémentaires dont l'ampleur est encore mal connue aujourd'hui. La grossesse et les premières années de vie sont des périodes de plus grande vulnérabilité, donc la vie intra-utérine et les premières années, en particulier les trois premières années, sont généralement qualifiées de fenêtres de vulnérabilité. C'est ce qu'on a vu à l'occasion d'un précédent podcast sur les vulnérabilités spécifiques des enfants. Je ferme la parenthèse, je reviens à l'article. Donc autre enjeu identifié concernant les produits cosmétiques. Les obligations réglementaires peuvent ne pas être suffisantes pour assurer une protection complète des consommateurs. Pour des raisons de secret industriel, les composants des cosmétiques ne sont pas tous indiqués sur l'emballage, ce qui rend difficile un choix éclairé. Cette méconnaissance concerne tout particulièrement les parfums. En Europe, l'exposition à ces substances chimiques est évaluée avec des hypothèses caractérisant la population générale. Or, les femmes enceintes utilisent plus de produits cosmétiques que la population générale, et ces produits présentent des spécificités. Les substances faisant classiquement l'objet de préoccupations sont les suivantes. Donc, je vais vous donner une liste de substances mais qui peuvent, cette liste, elle peut par exemple servir de liste de référence lorsque vous recherchez un, enfin lorsque vous souhaitez acheter un produit cosmétique et que vous voulez regarder la composition, et bien les substances que je vais vous indiquer là sont les substances qui sont enfin, qui font classiquement l'objet de préoccupation. Donc ça peut servir soit à l'occasion d'un nouvel achat, soit pour éventuellement faire une sélection parmi les produits cosmétiques que vous possédez déjà. Donc cette liste, les parabènes, en particulier méthylpropyléthyl et butylparabènes, les phtalates, souvent rencontrés dans les parfums, en particulier dibutylphtalate, diéthylphtalate et diméthylphtalate. Le triclosane, le MIT, qui a fait l'objet de l'actualité début 2016 avec des annonces de Ségolène Royal concernant cette substance MIT. Composés butylés, BHT et BHA, les muscles synthétiques, le formaldéhyde, les filtres UV synthétiques, comme le benzophénone, l'oxybenzone, le MBC. Les éléments traces métalliques que vous pourriez rencontrer également sous le terme générique métaux lourds, comme le plomb ou le nickel. Le phénoxyéthanol, l'éthoxyéthanol, EGEE, le PEG, le DTA, les siloxanes et les sels d'aluminium. Fin de la liste. Aujourd'hui, plusieurs fabricants de cosmétiques consacrent des budgets importants pour retirer certaines substances chimiques de leurs produits. Ces fabricants ont des difficultés à trouver des substituts permettant de conserver la stabilité des produits. En 2008, Roselyne Bachelot, alors ministre de la Santé, annonçait sa volonté de mettre en place un pictogramme, dont je cite, déconseillé aux femmes enceintes sur les produits cosmétiques comprenant des substances reprotoxiques, c'est-à-dire toxiques pour la reproduction. Cette mesure n'a pas encore été mise en place à ce jour. Elle a fait l'objet d'un amendement récent à l'Assemblée nationale dans le cadre des débats portant sur le projet de loi de santé. Et cet amendement n'a pas été retenu. Donc, loi de santé qui, de mémoire, a été débattue début 2016. J'ai un doute, ou fin 2015. Dans ces eaux-là. L'application de bonnes pratiques simples peut générer une baisse significative de la présence de produits chimiques dans les urines en quelques jours. Donc, concernant la santé des enfants et des femmes enceintes, maintenant, quelles sont les recommandations existantes concernant les produits cosmétiques? Élaborer un style de beauté naturel, utilisant peu ou pas de produits cosmétiques. Un régime alimentaire équilibré, riche en nutriments, en micronutriments en particulier, et en aliments non transformés, permet souvent d'améliorer la qualité de sa peau et son apparence générale. Cette amélioration peut faire ressentir un moindre besoin d'utiliser des produits cosmétiques. Autre recommandation, réduire le nombre de produits cosmétiques utilisés. Par exemple, en se focalisant sur les produits suivants: dentifrice, savon simple, de type Marseille ou d'Alep, ou à saponification à froid, déodorant, crème hydratante si besoin. De même, la trousse d'un bébé pourrait se réduire à un savon simple, du liniment, idéalement fabriqué soi-même, une crème de change, une crème hydratante et protectrice si besoin, à base d'huile végétale naturelle. Ne laver les cheveux d'un bébé que si nécessaire, pour éliminer les éventuelles desquamations et salissures dues à la transpiration du cuir chevelu et en utilisant peu de produits. Autre recommandation, pendant la grossesse, plus particulièrement, éviter ou fortement réduire l'utilisation de vernis à ongles et de teintures pour cheveux. L'entretien des ongles peut s'effectuer à l'aide de bains de pieds et de mains. Et réduire également fortement l'utilisation de déodorants antitranspirants, en particulier ceux qui contiennent des sels d'aluminium. Généralement, il y a une forte corrélation entre l'appellation antitranspirant et la présence de sels d'aluminium dans la composition. Autre recommandation, lire les étiquettes et s'assurer que les produits retenus ne contiennent pas de substances préoccupantes. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez vous appuyer sur la liste de substances que je vous ai présentée juste avant. Privilégier des produits aux compositions simples, à base de substances naturelles. huile végétale, beurre de qualité non raffiné, etc. Considérez la possibilité de fabriquer vous-même vos cosmétiques. Choisir des cosmétiques répondant à des labels reconnus, justifiant l'absence ou la faible teneur en substances préoccupantes classiques. En France, ces labels sont EcoCert, CosméBio, Nature et Progrès ou Natru, Natru en français, N-A-T-R-U-E. Autre recommandation, évitez les produits parfumés synthétiquement. Les termes parfum ou fragrance désignent un parfum synthétique la plupart du temps. Évitez les lingettes jetables, sauf pour dépanner lors de déplacements. C'est en particulier le cas pour les bébés. Diminuez le besoin en crème solaire par une exposition progressive au soleil. En cas de difficultés budgétaires, concernant les produits cosmétiques labellisés par exemple, certains produits alimentaires peuvent être utilisés. Huile de coco, huile d'olive, huile d'avocat, huile de noisette, huile d'amande douce, huile de chanvre, concombre, vinaigre d'ortie, etc. Au-delà des aspects budgétaires, cette option pourrait s'avérer être la plus saine. Voilà, c'est la fin de cet article bilan. À nouveau, si vous souhaitez avoir un premier niveau d'analyse critique sur ces recommandations, mais je vous invite à consulter les références données en fin d'article. Avec le texte et ses références, vous verrez pour chaque recommandation combien de fois j'ai retrouvé cette recommandation, par combien de sources elle est citée, et puis vous pourrez voir quel est le type de source, et donc vous faire un premier avis en fonction de votre profil, de à qui vous faites le plus confiance. Selon les gens, c'est des organismes publics, ou alors c'est des associations, ou alors il y a des gens qui souhaitent uniquement se baser sur les articles scientifiques. Ça dépend de votre sensibilité et de votre niveau de confiance pour ces différents types de sources. Voilà, c'est la fin de cet article. Je partage un retour d'expérience personnelle en lien avec le thème abordé. Donc, si vous me découvrez, pour information, j'ai deux filles. Alors, au moment où je vous parle, la première, mon aînée, a 4 ans, et la deuxième a 6 mois. Donc, mon aînée s'appelle Yumi, ma seconde s'appelle Nae. Et en fait, pour Nae, après, donc, on soit un peu plus intéressé à ces thématiques de produits cosmétiques et risques éventuels. Donc, on a opté avec Romy, avec ma compagne, pour une sélection de cosmétiques beaucoup plus réduite et beaucoup plus simple, dans le sens se rapprochant de l'aspect brut des aliments, des produits cosmétiques. Donc, on a fait beaucoup plus simple pour Nae que ce qu'on avait fait pour Yumi. Bon, je pense pas qu'on en ait déjà utilisé beaucoup pour Yumi, mais pour Nae, maintenant, on est vraiment à quelque chose qui, en tout cas, dans notre entourage, paraît assez réduit. Principalement, nous, on utilise un liniment enfin, c'est celui qu'on trouve dans le commerce et en pharmacie avec le moins d'ingrédients. J'envisage même d'en faire moi-même. Il faut que je prenne le temps de le faire. En tout cas, on en a un avec assez peu de composants. Et puis, on a une crème de change qu'on utilise assez peu et qui répond au label CosméBio, donc ce qui permet de s'assurer que voilà, qu'elle ne contient pas une substance faisant partie des familles de substances classiquement considérées comme préoccupantes et dont on peut trouver le détail dans le référentiel CosméBio. Voilà, sinon les bains, nous, ils sont faits uniquement à l'eau, par exemple maintenant, donc on n'utilise pas vraiment de shampoing ou de produits lavants ou de parfums. Voilà pour ce retour d'expérience. C'est la fin de ce podcast. Si cette thématique de protéger les enfants, les femmes enceintes, les bébés des substances chimiques vous intéresse, si vous voulez commencer à progresser sur ce thème, je vous invite, c'est l'objet d'un petit guide gratuit que j'ai fait, que vous pouvez télécharger donc gratuitement sur le blog, donc en tapant santé, enfant, environnement sur Google, ce sera le premier lien. Il y a une possibilité de le télécharger dans la barre latérale à droite, en haut du blog. Donc c'est un guide qui s'appelle 7 moyens simples et rapides pour réduire l'exposition de vos enfants aux substances chimiques dangereuses. Donc, comme son nom l'indique, c'est 7 moyens simples et que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour réduire significativement l'exposition de vos enfants. Au moment où je vous parle, c'est ça le guide gratuit que je propose sur le blog. Si vous écoutez ce podcast quelques années après la date de publication, enfin j'ai pour ambition de donner également d'autres mini-guides gratuits par la suite. Mais celui-là fera toujours partie du set de mini-guides gratuits. Voilà, merci à vous, merci à Ronan Vernon pour la musique. Merci à Yamaus pour les dessins. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Et d'ici là, prenez bien soin de vos enfants.